Il y a des gens qui rient en descendant en cascade. Il y a des gens qui rient en mitraillette. Il y a des rires, même des rieux qui aspirent. Il y a des rires silencieux.
6, 2011, 13, 15, 18, 20, 2022, encore lui, toujours lui, Jos Houben revient sur scène avec son spectacle « L'art du rire » créé en 2006, on appelle cela un classique. Bonjour Jos Houben.
Bonjour Pascal.
Quand vous riez, vous êtes plutôt silencieux ou mitraillette ?
Ah, c'est une bonne question. Je suis assez bruyant, je crois. Ouais, je m'écoute pas quand je ris.
Mais alors, qu'est-ce qui fait rire celui qui a fait profession de faire rire les autres ?
Mais comme plein de choses de la vie, j'avoue qu'au théâtre, c'est devenu un peu difficile. C'est comme un professeur de littérature qui n'arrive plus à lire vraiment un texte ou à le goûter. Je vois les astuces, je suis un peu critique. Je ris, mais je suis des fois, même moi, étonné des rires du public autour de moi quand je suis dans une salle, parce que voilà. Mais dans la vie, oui, je ris avec plein de avec mes enfants, avec un chat, avec mes amis, donc là.
Tous les jours.
Oui, tous les jours. Bon, écoutez, qui rit tous les jours? Oui, plus ou moins. Il y a le rire, c'est aussi dans la vie une petite monnaie d'échange. Ne serait-ce qu'un tout petit incident au supermarché, la dame rit, je ris, voilà. On cherche une espèce de petit équilibre social. Mmh. Donc il y a tellement de différentes façons dans lesquelles le rire se produit et se présente. Donc moi, je n'ai pas vraiment conscience de ça, mais je suis quelqu'un quand même d'assez... Peut-être ma femme ne va pas être d'accord, mais je suis assez léger et j'aime bien la vie. Voilà.
Oui, alors c'est rassurant parce que vous savez que j'ai rencontré, Jos Houben, des comiques sinistres micro notamment.
Ouais, ouais, ouais.
Je pensais faire des émissions drôles, par exemple, des déprimés totales.
Ouais, une petite précision, je ne suis pas un amuseur professionnel ni un comique professionnel. J'ai mis en scène et écrit, et ça j'adore, des spectacles comiques absurdes en Angleterre, en Belgique, en Hollande. Et donc, il est né cette fascination avec ce côté ingénieur de comment construire une comédie ou un sketch encore plus. Ciseler, construire un sketch comique qui fonctionnera chaque soir pendant des années. Et ça, ça me fascine. Donc, autour de cette thématique et de cette expérience, j'ai créé cette conférence théâtrale. Mais c'est vrai que, et j'en connais, il y a des gens qui sont comiques, qui ont fait de cela leur profession, qui sont anxieux, névrosés, cyniques, même très désagréables dans la vie. Où ils ne peuvent pas s'empêcher de faire rire tout le temps, que c'est aussi embêtant. C'est une espèce de névrose. Hein.
Oui, alors que vous êtes humoriste par intermittence,
oui.
Vous êtes aussi metteur en scène d'opéra, vous jouez des tests classiques, voilà. Beckett, on fait plus drôle dans le répertoire.
Je suis omnivore.
Vous êtes omnivore, mais vous faites ce spectacle, L'Art du Rire, depuis maintenant 16 ans. Alors, à part la cantatrice chauve de Ionesco qui se joue sans interruption depuis plus de 65 ans dans le même théâtre à Paris, je ne crois pas connaître d'autres spectacles qui aient une telle longévité.
Ouais, ouais.
Pourquoi ?
Parce qu'il est unique. Il ne faut pas que je me félicite trop. Je suis un peu tombé par hasard sur ça. Que j'avais cette conférence, je présentais, quand j'étais en tournée surtout, j'ai dit à l'époque je travaillais en Angleterre, je tournais avec des spectacles que j'avais créés pour The British Council, avec le but de faire des tournées internationales. Donc je me retrouve à Dakar au Sénégal ou à Sao Paulo au Brésil, et il y avait toujours un volet pédagogique, allez, pour les sponsors, pour les politiques, ou pour les autres qui ne peuvent pas faire votre stage, est-ce que vous pouvez faire un... Et donc à Moscou aussi notamment, donc il y a des acteurs qui viennent voir, il y a des sponsors qui viennent voir. Et j'ai dit, voilà ce que je fais pendant ce stage, voilà ce que nous faisons dans la pièce. Et je montrais des choses avec des élèves, des fois seuls. Et un jour, ça m'arrivait de le faire à Paris. Et quelqu'un m'a dit, tiens, c'est intéressant, ça intéresserait tout. Parce que j'avais tellement simplifié la chose. c'était tellement reductio ad absurdum à l'essentiel pour que aussi en Afrique aussi pour valider justement quand le corps s'y met, quand et, un petit enfant avec un certain mouvement, il va rire n'importe quel, parce qu'il est même, il n'est pas contaminé culturellement, donc il y a quelque chose du corps et voilà. Donc après, par hasard, quelqu'un l'a vu, qu'il a chuchoté à Peter Brook. Je jouais à l'époque une mise en scène de lui, de pièces de Beckett au Théâtre du Bouffe du Nord. Il m'a invité de le faire là. Et je l'ai fait comme ça, voilà. Et ça a... C'est un effet incroyable. Les murs ont tremblé. Alors, ça disait quelque part plus sur le public que sur moi. Il y avait quelque chose dans cette simplicité et cette limpidité de mes exposés qui faisait, qui pouvait respirer, qui pouvait rire, et moi je me moque pas de la société ni des gens, c'est fédérateur, et les gens aussi, ça parle de nous, de notre corps. Et donc voilà. Et depuis, il a poursuivi son chemin. Il est unique parce que j'ai pas cherché à faire un spectacle comique.
Et puis parce qu'il y a aussi peut-être cette simplicité, oui, puisqu'en effet, l'art du rire prend la forme d'une conférence.
Voilà.
Vous arrivez et vous dites, vous allez comprendre comment le rire fonctionne. C'est une mécanique, le rire, parce que vous dites souvent que vous êtes un ingénieur du rire.
Je dirais que de faire le rire et produire des rires dans des publics ou dans des lecteurs de bandes dessinées ou pour des chansons comiques comme Bobby Lapointe, il faut construire quelque chose. Il faut que ça, c'est comme une partition de musique. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de retours très intéressants de compositeurs, d'architectes qui me parlent de la composition de la chose. Comment je pose les bases, comment je cherche le déséquilibre, je rééquilibre la chose. Donc, c'est musical. Et c'est pour ça aussi que je m'intéresse au théâtre musical. Il faut, à un certain moment, il y a une forme et on dit, tiens, il y a la forme du 12 minutes de sketch, il y a la forme du 20 minutes épisode de Mr. Bean, et il y a la forme épique, donc on arrive jusqu'à une heure, il faut raconter vraiment une histoire. Et donc, ça s'apprend, ça se pratique, et attends, dans la vie, c'est autre chose. Hein, le rire, il fait partie de la vie quotidienne, d'autre façon que quand on fait rire un public, tel un magicien, il construit, il a ses ficelles, il répète pour que ça fonctionne.
Donc, le rire est un art,
c'est
pour
un art.
Paraphraser
faire
le
rire,
titre
faire
de votre
rire,
spectacle.
C'est un art. Dessiner Gaston Lagaffe, c'est un art.
Alors, ce spectacle se présente comme une conférence, on l'a dit, pour décortiquer les mécanismes du rire. Alors, vous allez nous expliquer, Yossou Ben, ce qui met nos zygomatiques en mouvement. Mais après, Asia, mon cœur.
Je prends le plein.
Asia sur RFI avec ce titre « Mon cœur » qui sera aussi le nom de son prochain album annoncé pour le début de l'été. Yosuben, le cœur, la tête, le bassin, les bras, les jambes, c'est selon votre spectacle « L'art du rire » là où ça commence. Donc ça passe par le corps forcément.
Forcément. Nous, on déjà un petit enfant de un an qui ne conceptualise pas le monde, qui ne parle pas, on peut le faire rire avec notre comportement. Je l'ai fait avec mon fils quand il était petit. Je jette un petit foulard, un petit Kleenex, et avant de tomber, je le soufflais, et le changement de vitesse le faisait rire, ben, un an. Donc, il y a quelque chose dans notre perception avec le corps, parce que ça reste un peu mystérieux, de quoi on parle quand on parle le corps, mais disons notre système nerveux qui capte des phénomènes d'apaisanteur, de vitesse, de justesse, de mouvement, qui s'intéresse profondément à ça pour apprendre à vivre, à exister, et donc qui s'amuse d'une façon ludique à reproduire, à mimer, à imiter, et quand un chien il fait un mouvement bizarre, l'enfant dit « Regarde ce qu'il a fait, il va l'imiter ».
Donc ce serait ça le rire, le changement de trajectoire en fait.
La surprise, je dirais, hein, parce que je ne suis pas scientifique et je me garde de ça, mais j'ai eu des échanges, par exemple avec professeur Alain Berthaud, grand chercheur sur le cerveau au Collège de France, on est devenus amis et on a eu beaucoup de conversations sur cela, comment il y a un état d'anticipation nécessaire pour pouvoir ne serait-ce qu'ouvrir ma valise, pour ne serait-ce que serrer la main comme on a fait quand nous sommes rencontrés, on doit anticiper un geste pour pouvoir le produire après. Donc, si cette anticipation se produit et à ce moment même, je fais autre chose, nous sommes surpris et cette surprise peut être agréable ou désagréable.
Donc, se casser la figure, quand on voit quelqu'un se casser la figure dans la rue, ça fait rire, même si ça lui fait mal, c'est parce qu'il y a un effet de surprise.
C'est-à-dire, si cette personne se fait mal et on voit que cette personne s'est fait mal, je ne sais pas si on va rire. On va arrêter le rire. Quand on voit que cette personne est en sécurité, on va rire. Une petite anecdote. Je jouais dans un théâtre à New York. Et à un moment, l'autre acteur, il a un petit échange avec un membre du public, un objet qui est tombé. Et il avait briefé ce monsieur de se lever et de le redonner, c'était une petite chaise. Mais une vieille dame voulait vraiment aider et elle était plus vite. Elle se levait, redonnait l'objet, mais son siège a fait clic. La montée, donc elle n'avait plus de siège. Elle s'assoit, elle disparaît. Elle était très vieille. Le public rit. Et donc, parce qu'elle réapparaît tout de suite. Deuxième moment, elle le refait, elle se lève et dit « c'est bon, c'est pas grave ». Elle remet le siège, mais il fait reflap. Et quand elle retombe, dans une demi-seconde, 400 personnes ont décidé de ne plus rire, parce que c'était devenu tragique. Et on avait peur pour elle. Donc le premier rire nous a surpris nous-mêmes, le deuxième, on a pu le contrôler. Parce que si quelqu'un se fait mal, bon, sauf quelqu'un qui n'a pas d'empathie du tout, ne peut pas faire rire. On rit quand on est en sécurité.
Alors, c'est vrai que vous êtes très physique sur scène, Yosuben, dans ce spectacle. Alors, pour la radio, c'est un peu compliqué, mais on peut raconter, par exemple, un effet de cascade. Vous trébuchez, vous renversez une chaise, vous coincez la main dans la chaise, et puis vous trébuchez encore et vous cognez la tête contre le mur. C'est drôle.
C'est drôle parce que le public a empathie avec la figure que je joue, qui tombe dans cette cascade d'accidents, pas pour faire rire, mais pour l'éviter. Donc, c'est l'anxiété sociale fait qu'on veut tout de suite récupérer. Ça veut dire qu'on a un geste pas maîtrisé et on a un contretemps avec son propre corps. Et cette récupération amène un autre déséquilibre. Donc, à certains moments, en essayant de récupérer, on nourrit la cascade. Donc, c'est tragique parce qu'on voit la personne lutter pour retrouver son équilibre, surtout social. Et si cette personne dit « Regarde, je vais vous faire rire » et il tombe exprès, on dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Donc, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu qui joue, les valeurs qui sont en jeu en ce moment-là, qui nous font rire.
C'est-à-dire la perte de dignité apparente.
Absolument. Et quelqu'un qui est complètement saoul ou un clochard qui trébuche, on ne rit pas, il est déjà tombé, socialement parlant.
Alors, il y a dans cet art du rire, tout l'art du mime et du clown. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, Yosoben, si vous avez commencé votre carrière en allant dans l'école de Jacques Lecoq à Paris au début des années 80. Et lui aussi racontait sur scène son art. Il utilisait souvent un masque, mais il racontait aussi comment faire parler le corps et le clown en lui.
Alors, je voulais parler maintenant d'un autre secteur. C'est... la recherche de son propre clown. Mais il ne faut pas l'entendre dans le clown traditionnel du cirque, mais la recherche de nous-mêmes par son clown. Car au fond, il y a un enfant qui a grandi en nous et qu'on ne peut plus exprimer dans les rapports sociaux. Il était avec nous lorsqu'on était petit, mais ce n'est pas l'enfant qui est en nous, c'est l'enfant qui a grandi en nous. Alors on s'aperçoit du reste que notre propre clown, c'est nous. C'est le plus nous. Plus que nous. Lorsqu'on a senti ça, alors on va trouver cet humour nécessaire pour aller plus loin. Alors je peux continuer à parler du clown, je veux dire, sans faire de gros efforts personnels, parce qu'au fond, on y est presque. Alors il y a des gestes que je ne vous montre pas parce que je suis en état de démonstration, mais c'est un état d'ouverture et de naïveté et très direct, très démuni, très sensible.
Yosoben, reconnaissez-vous là ce que vous a appris Jacques Lecoq, dont on ne parle pas forcément beaucoup, alors qu'il a été vraiment un maître pour des générations d'acteurs?
C'est très bon signe quand on ne parle pas de ces gens-là, comme pour la musique Nadia Boulanger, la grande force derrière plein de compositeurs, elle est presque inconnue. Ainsi, Jacques Lecoq aussi, quand même inspiré des gens plus différents, divers, comme même Yasmina Reza, Pierre Richard, Ariane Mnouchkine, Luc Bondy, tous issus de cette école. Et quand je l'entends, évidemment, je le reconnais, c'était un formidable montreur, Jacques. Il pouvait, d'un petit geste, juste l'essentiel, essentialiser quelque chose, et ça avait un impact incroyable, grande leçon pour tous les acteurs.
Mais il vous a appris la maîtrise du corps, justement. La compréhension du corps, c'est ça être clown? Parce que vous n'aimez pas beaucoup, je crois, le mot d'humoriste, mais clown, ça vous va?
Clown, c'est difficile aussi, c'est contaminé, comme il dit. On pense au nez rouge, on pense au... Mais disons qu'un personnage comique, un personnage, comme il dit, démuni, un peu en contresens, contre-temps avec soi-même, comme nous nous reconnaissons tout le temps, parce qu'en essayant d'être juste, on n'est pas juste. Et on essaye de... C'est ça la vie. On est toujours sur un fil, une espèce d'équilibré, équilibre instable. Alors, Jacques ne nous apprenait rien. Il ouvrait des portes. Il nous rendait curieux. Il donnait des cours très simples d'analyse de mouvement et d'improvisation autour d'un axe de thème très simple. Et il nous encourageait à partir de cette découverte de créer. L'école de Jacques Lecoq était une école, et la seule, d'après moi, que je sache, une école de création. On créait toutes les semaines, on ne touchait à rien de déjà créé.
Et vous enseignez aujourd'hui dans l'école Lecoq?
Oui, depuis 20 ans, oui.
Est-ce que c'est grâce à lui que vous, alors je ne sais pas si c'est le verbe qui convient, vous imitez sur scène à peu près toutes les espèces animales avec une prédilection pour le poisson ou la poule? Ouais. Je crois que vous avez fait la poule dans le monde entier.
J'ai fait la poule dans le monde entier. Bon, écoutez, une poule est une poule. Et quand on l'imite, pour n'importe quel peuple, n'importe quelle culture, n'importe quel enfant, c'est extraordinaire parce qu'ils sont confus, ils voient deux choses. Ils reconnaissent la poule si c'est bien fait. Ils disent oui, une poule est comme ça. Et en même temps, c'est un homme. Et cette surprise, ce jeu de nouveau, cette mise en jeu, elle est délicieuse. Ça nous fait marrer. En même temps, moi, un blanc qui jouait dans le jardin de l'ambassadeur belge à Dakar, une poule, devant toutes ces invités sénégalais, ça avait encore une autre couche de... Alors tout le monde se mettait à faire la poule avec moi, c'était la danse des poules.
Mais ça fait rire à tous les coups.
Tous les coups. Il y a deux choses dans le rire. On rit parce qu'on reconnaît, on dit « Ah, c'est juste !» Et hier soir encore, on me disait « Monsieur, ce que vous avez dit, c'est juste, je le fais aussi. Je ne dépasse pas, je reste dans mon propos. Je ne pousse pas trop loin, sinon ça part de moi et mon talent de comique. »
Mais si vous savez faire rire, c'est presque de la manipulation.
C'est complètement de la manipulation. Sinon, la profession de comique n'existerait pas si lui, il savait ou elle... ne serait pas si ce soir, Jamel ne saurait pas s'ils vont rire ou non, il n'aura plus de profession. Donc, tel le magicien, tel l'hypnotiseur, évidemment, on manipule. Mais si ça reste que de la manipulation, hein, certainement le public va le sentir et il commence même à ne pas aimer qu'il rit, ça devient mécanique. Donc à certains moments, pour moi de toute façon, on ouvre en riant, le public arrive. Si j'avais dit l'art du comportement du corps, personne ne sera venu. Ils viennent, c'est l'art du rire. Je leur fais rire. Petit à petit, on ouvre quand même la porte du mystère de l'être humain. Et ça devient autre chose. Et quand après, c'est pour ça que je passe par les animaux. Après les animaux, je joue le rire même. Et qu'est-ce qui arrive à notre corps? Et comment on quitte notre posture verticale dignité? Et on s'en fout un peu de la dignité quand on se met à rire. Le rire est anarchique, il est destructeur. Il y a quelque chose de là, du bouffon qui arrive, du mystère, du diable même, je dirais.
Vous imitez la poule, le poisson, la vache et quelques autres animaux, mais vous imitez aussi les fromages.
Quand j'étais plus jeune, et c'est vrai, j'amusais à table en imitant les fromages. J'étais jeune. Mais ça marchait très bien. Ça marchait à fond. Et de nouveau, si cela vous tente d'amuser à table ce soir en imitant les fromages, il faut le faire, il faut bien observer le fromage. Allez dans la cuisine, regardez le camembert, faites corps avec. Après, vous avoir votre succès garanti. Prenons le camembert. Tentons faire le camembert. Il est facile pour les débutants parce qu'on a l'appui dans son nom. Son nom indique déjà quelque part son corps. Camembert. Ça commence sec. Ca. Puis ça ramollit. Camembert. Et puis ça coule. Camembert.
Youssou Ben, je vois que vous vous faites rire en écoutant cet extrait de votre spectacle.
Oui, je ris même moi-même, c'est vrai. C'est délicieux. Ce que je découvre, c'est rare que j'écoute moi-même ou je regarde des vidéos de mon spectacle, mais là, en m'écoutant, c'est vrai que... Pourquoi un camembert? Pourquoi un poule? Pourquoi un chien? C'est tellement proche de nous. C'est quelque part tellement banal. Et quand on rend le banal nouveau, surprenant, sublime, soudainement, il y a cette prise de conscience, selon moi, que la vie est formidable. Il n'y a pas un moment d'ennui possible, comme pour l'enfant. Et c'est cet enfant en nous qui se réveille, dont parlait Jacques, qui se marre, qui dit « oui, le camembert, on peut le jouer comme ça ». Nous sommes homo ludens, l'homme qui joue. On aime jouer. Faire rire, c'est un jeu.
Mais le camembert n'est pas votre seule victime, parce qu'il y a aussi, par exemple, le cheddar. Est-ce que les Anglais rient de la même façon que les Français quand vous imitez le cheddar?
Voilà. Que les Anglais, que les Français rient avec ça. Des fois, je le coupe. En Hollande, on peut dire... En Allemagne, le fromage, en France, c'est autre chose que juste quelque chose, une nourriture.
Et c'est un drapeau presque.
Complètement, c'est le drapeau. Et les Anglais se sentent inférieurs aux Français à cause du fromage, mais ils connaissent quand même le camembert eux aussi, et leur cheddar ne peut pas faire la compétition. Donc quand je le fais, ça a le même effet. Les Anglais rient, applaudissent, les Français aussi, mais les Belges, les Allemands, ils s'en foutent un peu, ils ne sont pas tellement... Voilà, c'est très, très, très intéressant. Là, c'est vraiment culturel.
Youssou Ben, vous parlez d'Allemagne, vous parlez de Hollande, de New York, de Dakar. Vous avez fait, en effet, le tour du monde et vous jouez en anglais, en flamand et en français. Mais comment ça se passe devant un public allemand, par exemple?
Mais c'est difficile parce que je peux, c'est pas pour me vanter, mais je peux le jouer et je l'ai tenté en allemand. Sauf que le verbe arrive à la fin de la phrase. Grammaticalement, je ne la maîtrise pas assez pour pouvoir improviser. Donc, je n'ai pas cette fluidité. Ça me rend un peu raide. En français, dans ma propre langue, même que c'est un peu en flamand, comme l'allemand, le verbe à la fin, je me débrouille parce que je maîtrise profondément la langue. Même si je cafouille, je bafouille, ce n'est pas grave. Je l'ai joué à Salzbourg. Et les gens me disent ça, mais je parle, je maîtrise assez bien l'allemand quotidien. Sauf que quand je parle dans le quotidien, l'allemand, c'est moi qui choisis les phrases et les mots. Là, dans l'art du rire, c'est autre chose. Il faut être très précis. On en parlait, c'est une construction. Donc, si je commence à rater, ça devient très difficile. Et je l'ai essayé à Salzbourg. Et j'ai vraiment parlé de l'anglais avec du mauvais allemand. Mélangé en leur avertissant que je ne maîtrise pas bien l'allemand et en leur félicitant que les Salzbourgeois, quand même, c'est en Autriche les meilleurs linguistes. Bon, voilà.
Donc ça marchait quand même.
Et ça marchait quand même. Et j'ai découvert une nouvelle façon de faire que je vais essayer l'année prochaine à Stuttgart.
Alors, de la même manière qu'il y a différents types de rire, Yosuben, il y a différents humours, différents acteurs, différents humoristes, et je vous classerai volontiers dans la famille de Jacques Tati, corps longiligne, penché en avant, légèrement sautillant et pipe au bec.
Je suis pas très drôle, mais enfin, je suis moins drôle de face.
Quand avez-vous découvert que les gens étaient plus drôles de dos que de face?
C'est en classe. Voyez-vous, de face, en classe, on voit un professeur très correct, cravate bien faite. Et quand on n'est pas très bon élève, ce qui était mon cas, alors on se retrouve au coin. Et dans le coin, on voit le professeur, on voit, si vous voulez, le profil professeur. Et ce qu'un bon élève ne voit pas de face, un mauvais élève dans le coin voit que le professeur se gratte facilement les genoux, a des petits bonbons de réserve. Et c'est là où je crois que j'ai commencé à observer en étant pas très bon élève.
Jacques Tati en 1968, formidable. Mais ouais. Alors vous, vous avez été bon élève, hein, parce que vous avez fait des études de philo,
non,
etc.
Oui, mais j'étais plutôt assez intelligent pour me débrouiller. J'étais peut-être j'étais bon élève, mais élève ennuyé. J'avais des grandes crises d'ennui.
Donc il vous fallait rire.
Je m'amusais, je dessinais, oui, j'embêtais mes camarades de classe avec des blagues, avec des histoires, avec des trucs. Bon, voilà, je me suis sauvé.
Mais le rire peut être philosophique. Et d'ailleurs, Yosuben, vous venez de sortir un livre d'entretien avec un philosophe, Christophe Schaeffer, s'appelle Le chien de Bergson. Oui. Donc le rire est très sérieux.
Oui, mais non, justement, le chien de Bergson, il faut surtout le lire, parce que le chien de Bergson, c'est un livre qui ne tient pas la route.
Allons bon.
C'est un livre qui change de graphisme, on perd le lecteur, je refuse le dialogue. Certainement, il y a Bergson lui-même qui arrive, mais il a un chien, et les théories de Bergson ne tiennent pas la route parce que son chien se comporte à l'inverse de son théorie. C'est un livre complètement chaotique, où on a voulu, avec Christophe, qui est un bon ami aussi, et d'ailleurs le créateur de Lumière, de plein d'opéras que j'ai mis en scène, on en a discuté souvent et on dit tiens, essayons en forme de dialogue de parler autour du rire et en changeant de mode, de figure pour que ceux qui lisent et qui s'interrogent avec nous autour de ces questions, qui sont évidemment des questions pertinentes et sérieuses, aient l'expérience du rire en le faisant. Donc on a cherché à faire rire en écrivant, en composant ce livre qui est plutôt une performance sur du papier, un objet unique que d'un texte, voilà.
Mais vous avez la réponse à cette question hautement philosophique, pourquoi l'homme ou la femme rit ?
Non, parce que selon moi, cette question, le pourquoi, il est stupide. Comment ? Quand ? Le pourquoi, on ne sait même pas pourquoi la gravité existe, pourquoi l'univers existe, le pourquoi il nous embête tout le temps. Je n'ai pas cette réponse et j'espère jamais la trouver.
On dira donc où vous jouez, Yosuben, l'art du rire, à la Scala, à Paris jusqu'au 26 juin, puis vous filez au Festival d'Avignon, vous serez du 7 au 30 juillet, et puis ce livre, Le chien de Bergson, est édité chez Premier Parallèle. Pascal Paradou, Louise Calédec, Guillaume Ploquin à la réalisation. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve lundi prochain.